This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هاجو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داجا.
O Brasil quer se vingar.
Turkey fotora. Slava Russia.
Bonsoir et bienvenue, un jour dans le monde et un jour avec beaucoup de monde, comme j'aime le dire. Merci infiniment, chers auditeurs, d'être si nombreux au rendez-vous de l'étranger sur France Inter. Le programme aujourd'hui, l'Inde avec Éric Valmire, une balade en taxi dans les rues de Tunis en compagnie de Thibaut Cavaillès, le Forum international des jeunes des quartiers populaires du monde, rencontre avec l'une des organisatrices au micro de Dominique André. À 18h55, ce sera l'édito d'Arnaud Le Parmentier, en finir avec l'orthodoxie. Je ne sais pas s'il s'agit là d'économie ou de religion, on verra tout à l'heure, mais tout de suite, direction Vienne, où sont réunis en conclave les négociateurs sur le nucléaire iranien.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
Ces négociateurs, le fameux groupe 5 plus 1, sont des diplomates venus des États-Unis, de Chine, de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Russie. Ils ont jusqu'à lundi prochain pour parvenir à un accord avec leurs homologues iraniens. L'enjeu, c'est le contrôle de la nature et de la puissance de l'infrastructure nucléaire iranienne. En termes clairs, empêcher le pays de se doter de l'arme atomique. Du côté iranien, l'enjeu, c'est de lever les sanctions économiques internationales qui étouffent littéralement son économie. Si un accord était trouvé, ce serait un événement géopolitique majeur. On en parle ce soir avec François Hesbourg. Bonsoir.
Bonsoir.
Fondation pour la recherche stratégique. Est-ce que les planètes sont bien alignées à Vienne en ce moment ?
Si la négociation était entièrement entre les mains des négociateurs à Vienne, je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux pour qu'ils aboutissent à un résultat, sinon le 24, dans les jours immédiatement suivants.
C'est beaucoup, une chance sur deux.
Ah, c'est une chance sur deux, c'est beaucoup. Les paramètres techniques de cette affaire sont bien connus, bien cernés, et au fil des mois, et puis des semaines, puis des jours, on voit converger les solutions possibles sur à peu près tous les sujets spécifiques. Le problème, c'est que les négociateurs ne sont bien entendu pas livrés à eux-mêmes, et c'est à Téhéran et à Washington que va se décider en définitive le sort de la négociation.
Alors ça, on va y venir, mais j'aimerais, si vous le permettez, François Hesbourg, qu'on fasse un tout petit tour par les coulisses de la négociation. Bonjour. Comment ça se passe à Vienne ? C'est 24 heures sur 24, des piles de dossiers, du café, tout le monde est enfermé dans une salle. C'est ça une négociation de cette nature ?
Ça risque d'être ça. En fin de compte, si les négociateurs ont le sentiment que leur capital les amunit d'instructions claires qui permettent la convergence des positions, ça peut finir comme ça. Les négociateurs, de toute façon, se connaissent entre eux, se voient. Oui, ce sont déjà vus en d'autres occasions, en bilatéral. Par exemple, les Américains et les Iraniens se sont vus ces derniers jours en Oman. Et les pays des 5 plus 1, donc les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, se voient de leur côté. Les Français avec les Américains récemment, les Américains avec les Russes. Et ce qui est d'ailleurs intéressant dans cette affaire, c'est que ce n'est pas l'Occident vis-à-vis de l'Iran, c'est vraiment les grandes puissances, parce que la Russie n'est pas du tout un acteur passif, ni même négatif dans cette négociation. Elle est un élément absolument majeur dans les chances d'aboutissement de la négociation. On est dans cette chose très rare, c'est-à-dire la coopération des grandes puissances, qu'elles soient occidentales ou non occidentales.
Oui, et puis qui, sur cette négociation-là, mettent de côté leurs divergences parfois profondes. Vous parliez de la Russie. Le dossier ukrainien est mis là, entre parenthèses, le temps d'essayer de trouver une position commune sur l'Iran. Pour le dire vite, François Hesbourg, est-ce que le groupe 5 plus 1 veut limiter la capacité nucléaire iranienne et en définir donc précisément la nature. Je m'explique, est-ce que ça c'est utopique ou c'est le minimum de ce qu'attendent les 5 plus 1 ?
Les 5 plus 1 veulent avoir l'assurance que l'Iran ne pourra pas accéder à l'arme nucléaire et donc l'accord prévoira, si il se fait, les conditions de vérification et les conditions de gestion physique de certains éléments du programme nucléaire iranien. Par exemple, l'un des aboutissements probables de la négociation, c'est que tout uranium enrichi en Iran partirait aussitôt vers la Russie, donc partirait physiquement en Russie, pour être transformé en barre de combustible. Et une fois que c'est transformé en barre de combustible, c'est vraiment très difficile de faire l'opération inverse. C'est un peu comme d'essayer de refaire un œuf à partir d'une omelette. Hein. Oui, Il est plus facile de faire l'omelette que de refaire l'œuf. Donc, des mesures techniques, des mesures physiques, des mesures sur place en Iran, avec, par exemple, le changement des caractéristiques de la centrale nucléaire que les Iraniens sont en train d'achever à Arak, de façon à ce qu'elle ne puisse pas fabriquer du plutonium. C'est l'encadrement de l'usine souterraine d'uranium que les Iraniens avaient construit clandestinement en 2009 à Fordow, sous des dizaines et des dizaines de mètres d'épaisseur de roche. Donc, c'est une affaire qui est techniquement complexe, mais on voit quand même assez bien ce à quoi on pourrait aboutir techniquement.
Les Iraniens, François Hesbourg, dans d'autres phases de la négociation, ont parfois été dans la surenchère. C'est-à-dire que là où les 5 plus 1 disaient hors de question que votre infrastructure nucléaire soit de telle nature et de telle ampleur, eux ont pu surenchérer en disant non seulement on reste là, mais on en demande encore plus. Est-ce que ce type de surenchère peut intervenir là dans les jours qui viennent ?
Alors, la grande inconnue, c'est qu'est-ce qui sera acceptable pour le guide suprême, puisque en Iran il y a un guide suprême, c'est l'ayatollah Khamenei, avec quoi pourra-t-il vivre? Parce que le premier ministre Rouhani veut visiblement un accord. Les négociateurs qu'il a dépêchés à Vienne et dans les capitales avant sont en train de converger avec les négociateurs des pays membres du Conseil de sécurité. Mais nous ne savons pas...
La position du guide.
Nous ne savons pas quelle sera la fin des fins lorsque les négociateurs auront bâti un texte dans le jargon diplomatique, vous parliez un peu de l'arrière-cuisine, ils vont concocter, s'ils arrivent à se mettre d'accord, un accord dit ad referendum. C'est-à-dire, c'est un accord où les négociateurs disent, ben voilà, on s'est mis d'accord, mais on va maintenant se retourner vers nos capitales pour s'assurer de leur propre accord. Et c'est là où peut devenir très compliqué, en partie aux États-Unis, mais surtout en Iran. Parce qu'aux États-Unis, on connaît les problèmes qu'Obama pourra avoir avec son accord. On les connaît, on les mesure. Ils sont difficiles, mais ils sont mesurables.
Mais il y a des faucons partout, de toute façon.
Voilà. Mais dans le cas de l'Iran, on ne sait pas mesurer le risque. Moi, je ne sais pas si le risque que Khamenei, à la fin des fins, dise « non, je n'en veux pas », si ce risque il est de 2% ou il est de 98%.
Et ce serait une décision politicienne, politique de sa part, je parle du guide, là, ou symbolique, ne pas perdre la face.
C'est un choix, vous le disiez au tout début de l'émission, c'est vraiment un choix géopolitique. Rouhani, les gens autour de lui, donc Rouhani qui a été élu
négocier sur cette question.
Mais Rouhani, lui, le raisonnement, c'est l'Iran est le pays le plus puissant de la région. Il ne pourra pleinement développer sa puissance que si son économie parvient à redémarrer. Elle ne pourra pas redémarrer sans sanctions. L'Iran a par ailleurs démontré qu'il maîtrisait les éléments du nucléaire. Il a obtenu que l'enrichissement de l'uranium ne soit pas interdit. Donc la face est sauvée. Ça, le parti géopolitique, là, c'est l'Iran se portera mieux en étant la puissance la plus importante du Moyen-Orient sans accéder à l'arme nucléaire. Et il y a l'autre camp qui est assez concentré du côté du guide, mais encore une fois, on ne sait pas ce que pense réellement le guide, qui dit grosso modo, sans le nucléaire militaire, l'Iran ne pourra pas développer pleinement sa puissance. Hein, c'est assez binaire, c'est une vision de la place de l'Iran dans le Moyen-Orient contre une autre vision du l'Iran par rapport au Moyen-Orient.
Alors, si on quitte le plan géopolitique, François Hesbourg, pour remettre le nez dans les dossiers qui sont en négociation en ce moment même à Vienne, les Iraniens, eux, demandent une levée immédiate des sanctions économiques, instantanée, en cas d'accord. En face, on répond doucement, du calme, il faut raison garder, on ne va pas se précipiter. Pourquoi les 5 plus 1 tempèrent sur la levée des sanctions ? Pour garder une carotte ou un bâton ?
Il peut bien entendu y avoir ce souci. Mais il faut savoir aussi que l'empilement des sanctions, et pas seulement celles liées au nucléaire, au fil des décennies, est tel que le démontage des sanctions va être quelque chose de long et difficile. Pour que les auditeurs se rendent compte de la difficulté, je prends un exemple pratique. Il y a un accord intérimaire sur le nucléaire qui a été conclu l'an dernier. Dans cet accord intérimaire, il y a deux secteurs où les sanctions ont été levées. C'est les pièces pour l'automobile, ça intéresse beaucoup l'industrie française, puisque la plus grosse partie des bagnoles en Iran sont fabriquées par des sociétés françaises. Et ce n'est pas des petits volumes, hein, c'est des centaines de milliers. Hein, c'est un très gros marché pour Renault, PSA, etc. Et ces sociétés ont maintenant le droit de livrer les pièces de rechange. J'ai cru comprendre et qu'au moins l'une d'entre elles avait eu de très très grosses difficultés à obtenir les crédits bancaires correspondants. Et parce que les banques, bon, vous leur dites, les sanctions ont été levées, mais les banques, elles disent, on ne sait pas ce que ça peut cacher aux États-Unis. Vous voyez ce qui est arrivé avec Paribas, et qui avait fait apparemment quelques bêtises dans des affaires liées
au... Il a payé une amende de plusieurs milliards de dollars.
9 milliards de dollars, excusez du peu. Alors, vous avez, du coup, les banques qui sont devenues incroyablement frileuses. Donc, les sanctions ont été levées, et dans la pratique...
Elle continue à fonctionner.
En fait, elle continue. C'est un peu comme le canard à qui on coupe la tête, il continue de marcher. D'autre part, une bonne partie des sanctions liées au nucléaire l'ont été dans le cadre de résolutions du Conseil de sécurité. Il va falloir que le Conseil de sécurité commence à dépiauter les différentes couches de sanctions qui ont été mises en place. Donc, ce n'est pas simplement un problème de tactique, de négociation.
Une faisabilité qui est peut-être difficile.
Il y a un vrai problème, mais en même temps, ce qui me rassure quelque part, c'est que beaucoup d'Iraniens qui suivent le dossier de près sont conscients de cette difficulté et sachant cela, ça ne les empêche pas de vouloir rechercher l'accord.
D'accord.
Donc, quelque part...
C'est
pour ça que je parle d'une bonne chance sur deux.
Bon, mais ça peut échouer quand même.
Ah ben bien sûr, ça peut échouer. D'abord parce que techniquement, il peut y avoir des désaccords qui ne seront pas réglés. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais surtout, il y a cette immense incertitude à Téhéran. Et encore une fois, il y a un décideur qui, si je puis dire, ne répond qu'à Dieu. C'est
qui complique un peu la négociation.
Alors, c'est très difficile de négocier avec Dieu. Jamais vraiment essayé, à vrai dire.
Moi non plus.
Et du côté américain, et pour l'instant, et les républicains qui sont très durs, c'est plutôt utile pour Obama. Parce que ça lui donne du levier dans la négociation. Mais une fois qu'il y a un accord, à ce moment-là, bien entendu, les républicains vont se retourner contre Obama. Alors Obama, il a pas mal d'outils qui lui permettent de contourner le Congrès. Il peut lever à titre provisoire et reconductible, et il n'est là que pour 2 ans, toute une série de sanctions, notamment les sanctions pétrolières, évidemment très importantes pour l'Iran. Et au bout de 2 ans, les républicains constateront si un des leurs est porté à la présidence aux États-Unis.
Il ne reviendra pas en arrière.
Ils constateront que ce sera un peu comme le mariage pour tous. Quoi. Pas facile de faire de l'abrogation.
Et François Hesbourg, dernière question. S'il y a échec lundi prochain, est-ce grave, docteur ?
Alors, il y a de la marge...
Il y a quand même une dramatisation autour
Alors,
de la
donc,
date. Hein.
Il y a une dramatisation qui est tout à fait logique. Hein. Moi, je considère que c'est un très, très, très gros enjeu parce que c'est quand même la face du Moyen-Orient qui sera transformée par ce qui se passera ou ce qui ne se passera pas à Vienne. Cela étant dit, il y a une zone grise entre le succès et l'échec. C'est-à-dire les négociateurs, constatant l'impossibilité d'arriver à un accord complet, peuvent... j'allais dire, refaire ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est-à-dire un accord provisoire qui apporterait sur certains points particuliers du programme nucléaire iranien, par exemple sur la fameuse centrale nucléaire qui devait produire du plutonium. Là, je pense qu'il peut y avoir des petits accords. En attendant la négociation à échéance plus longue de l'accord complet. Donc, un succès serait quelque chose de tout à fait remarquable, mais l'absence de succès ne veut pas non plus dire forcément échec absolu.
Oui.
On est quand même dans un processus, sauf si le guide tout d'un coup décide,
arrête le processus
et met les freins, ce qui serait assez dramatique par ailleurs.
Vous êtes un peu notre guide ce soir, François Hesbourg.
pas suprême.
mais je profite quand même de ce que j'ai sous la main. Est-ce que vous pourriez me donner votre intime conviction sur lundi prochain, sur le 24 novembre?
Techniquement, je pense que les négociateurs peuvent, moyennant effectivement du 24-7 et beaucoup de tartines et beaucoup de café, je pense qu'encore une fois qu'il y a au moins une chance sur deux pour qu'ils y arrivent. Par contre, je ne sais pas mesurer, mais vraiment pas. Ce qui pourrait se passer à Téhéran chez le guide suprême.
Merci François Hesbourg. Rendez-vous donc lundi prochain pour savoir l'issue de cette négociation et peut-être donc de ce basculement géopolitique. À suivre, une balade en taxi dans les rues de Tunis. Et tout de suite, c'est Pharrell Williams avec Daft Punk. Et c'est un jour dans le monde sur France Inter, 18h33.
Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me while trying to fight it. Just like a kite, you learned to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go.
Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there. Who ushers in the air I need to power myself.
Allez, on file en Tunisie juste après. Pharrell Williams et les Daft Punk.
tir de grenade lacrymogène.
Manifestation, heurts, arrestation, censure.
Ce soir, c'est une chape de plomb qui s'est abattue sur la Tunisie.
Et puis, le président Ben Ali a décidé de limoger le gouvernement.
Un jour, dans le monde, sur France Inter.
La Tunisie à la rencontre de Yacine. Il est chauffeur de taxi à Tunis et comme beaucoup de taxis dans le monde, il est au courant de toute l'actualité de son pays. En ce moment, c'est 100% politique avec les législatives du 26 octobre dernier et la présidentielle qui, elle, aura lieu dimanche 23 novembre. Dans le taxi jaune de Yacine, la radio est branchée en permanence sur des émissions qui ne parlent que de politique. Passe aussi beaucoup de clients qui ne sont pas toujours d'accord. Alors accrochez vos ceintures pour cette balade en taco où l'on prend des sens interdits, où l'on parle de Bourguiba, de démocratie et de Kalachnikov. C'est Thibaut Cavaillès qui est sur le siège passager.
Okay. On va commencer avec l'embouteillage. J'aurais dû tourner d'autre côté.
Alors du coup, comment vous faites pour vous adapter, vous qui êtes taxi, quand il y a des embouteillages?
Je ne suis pas un ange dans les routes. Parfois, je grille un petit feu rouge. Comme par exemple, maintenant, j'essaie de le griller, tant que les policiers regardent ailleurs.
Ils sont juste en face, les policiers.
Ouais, mais ils sont en train de regarder ailleurs. Pas de ce côté. Regardez, regarde de l'autre côté. Voilà, moi, j'ai profité. J'adore ce programme-là. Il parle des politiques, de la vie des Tunisiens, tout.
Vous êtes content de ces élections?
Ouais. Mais ce que je vois... Et quand je vois les figures de Nida Tounes,
c'est le parti vainqueur.
Ils sont tous de Ben Ali. C'est vrai que leur chef, Béji, c'est une personne, un vieux de la vieille. Il est un politicien chevronné, ça c'est vrai.
88 ans.
Alors, 88 ans, ouais. Mais avec son discours, hein, c'est un tailleur. Il parle trop bien. Et quand je vois, il y a plein de femmes qui l'aiment, le Béji Kaïd Sebsi. Plein de femmes. Même ma mère, elle aime Béji Kaïd Sebsi. Je ne lui donne pas beaucoup de confiance. Moi, ce que je donne confiance, j'ai confiance à Al-Marzouki.
Le président actuel.
Ouais. Moi, je veux un président qui sait qu'est-ce que ça veut dire la démocratie.
Et Marzouki, vous pensez, Mansef, ouais. Marzouki, vous pensez qu'il, ouais, sait ce que c'est?
Ouais. Ouais, il sait. Regardez les médias. Ils ont fait Marzouki comme une serpillière.
Il critique Marzouki,
ouais,
notamment.
Toujours. Il n'a mis aucun journaliste en prison.
Bah, heureusement.
C'est ça la démocratie. On va voir avec un autre président. Est-ce qu'ils vont faire ça? Je crois pas. Vous poussez un peu derrière moi parce que je crois qu'il y a un client qui est devant nous là-bas. Wa alaykoum salam. Il y a un accident, il y a quelque chose que ça marche pas.
Et du coup, vous faites quoi?
Il est en train d'aller dans l'interdit.
Ouais, ouais. Je fais un petit sens interdit parce que vous voyez.
Sur une bretelle de fois de voie.
Bien sûr que oui. Regardez l'embouteillage jusqu'où va arriver. Ça fait 2 ou 3 km. Mais moi j'ai demandé aux passagers.
Depuis.
Est-ce que ça l'arrange ou pas? Et lui.
Voisin, il y a la pagaille dans le pays.
Pardon?
La pagaille dans le pays. Et depuis ce qu'on appelle la révolution.
Vous avez voté pour qui?
Afek Tounes. J'allais voter pour Nida, mais ils ont trop de figures de l'ancien régime. Et pour moi, c'est pas net. Le Béji, quand je l'écoute, il me fait du bien. Mais de là à me convaincre de voter pour lui, il a un mauvais passé. J'ai peur qu'un autre jour...
Son passé n'est pas clair. Nida, c'est une troupe de loups, de charognards.
La Tunisie, elle a la plus grande chance de tous les pays du monde. Premièrement, il y a le bon Dieu avant tout. Deuxièmement, c'est Bourguiba. S'il n'était pas Bourguiba, est-ce que vous imaginez que la Tunisie, elle est comme ça? Impossible. Juste à côté de nous, la Libye. À notre gauche, à notre droite, l'Algérie. Regardez leur peuple. Non, arrêtez.
Il n'a pas assez fait.
Mais
il n'a pas
assez fait. L'histoire.
Il n'a pas assez fait.
L'histoire. Bourguiba, c'est lui qui l'a construit. Après le bon Dieu, qu'il a construit la Tunisie.
Vous ne comparez pas le bon Dieu avec un.
Non, Jean.
Allez.
Oh là là. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas voulu pousser un peu trop le bouchon. Mais avec Bourguiba, là, je pousse le bouchon.
comment elle va la Tunisie aujourd'hui?
Elle va très très bien. Mais parfois les Européens ils disent qu'il y a des problèmes en Tunisie et ça c'est pas vrai.
Hier il y a quand même eu une attaque par des terroristes sur des militaires avec 5 morts.
Ben écoutez, en Grande-Bretagne, United Kingdom, il y a des terroristes qui ont fait ça à Londres. À Canada, il y a un mec, il a tué un soldat. Vous voyez?
Oui, mais c'est une fois de temps en temps, alors qu'ici ça fait 30 au moins, 30 gendarmes ou policiers ou militaires tués en 2 ans.
Ça c'est un prix qu'on doit payer. Ce qu'ils veulent eux, ils veulent que le peuple tunisien il a peur. Mais au contraire, le peuple tunisien il n'a pas peur. Attendez.
Elle pleure. C'est une journaliste, là.
C'est en direct, ça. Ben, tellement qu'elle est émue par la mort de nos soldats. Parce que ce n'est pas des chiens qui sont morts. Ils sont morts pour nous. C'est pour que nous, on peut se balader comme ça. Et on peut parler comme on parle maintenant. Salam alaikum. C'est un Libyen.
Comment ça va en Libye?
Ah, toute la Libye n'est pas en sécurité, l'État n'est pas stable.
L'équation est claire, ce qu'il faut c'est un dictateur.
Là vous avez parlé de quoi avec ce Libyen?
La Libye, ce qui se passe en Libye, ce qu'il a fait Gaddafi, ce qu'il a fait Bourguiba, il y a une grande différence. Sur le peuple tunisien, nous, quand il y a une dispute, on discute. Mais les Libyens, ils ne discutent pas. Ils ramènent directement la Kalachnikov. Ouais. Kalachnikov. Mais ce que je dis, à la fin, moi je dis vive la Tunisie.
Voilà, j'espère que Thibaut Cavaillès a une bonne assurance multirisque vu la manière dont conduit Yacine, ce chauffeur de taxi tunisien. Il est 18h43. Et sur France Inter, c'est partout ailleurs avec Éric Valmire. Bonsoir Éric.
Bonsoir Nicolas.
L'Inde, 6 mois après l'élection de Modi, un premier bilan.
Le parti nationaliste hindou de Modi succédait au parti du Congrès. Une gouvernance de 10 ans minée par les affaires de corruption et une croissance en dents de scie. 10 années de coalition effacées par une victoire éclatante et une majorité absolue du parti nationaliste hindou. Mais 6 mois plus tard, les réformes promises se font toujours attendre. L'inflation reste à un haut niveau. Le Made in India, Dixit, le gouvernement indien est censé résister aux influences étrangères néfastes pour le pays. Sur la pratique du pouvoir, au nom de la lutte contre la corruption, Modi exerce un contrôle serré de son gouvernement et des administrations qui en découlent, fortement corrompues. Et de leur côté, les fondamentalistes hindouistes réclament une régénération morale pour réactiver une fibre nationale en perdition.
Oui, d'où un certain nombre de questions, vraiment nombreuses d'ailleurs, qui se posent et qui restent en suspens. Quid de la paix sociale, du risque communautarise, de l'efficacité d'un pouvoir ultra centralisé dans un système fédéral, point d'interrogation.
Il y en a beaucoup et ce sont des questions que nous avons abordées avec Pavan Kavarma, ancien diplomate, ancien ambassadeur de l'Inde au royaume du Bhoutan, essayiste, aujourd'hui sénateur dans l'opposition, élu du Janata Dal, un des premiers à avoir félicité Modi pour sa large victoire aux élections, mais un des plus virulents sur l'implication de l'opposition dans la réflexion sur les réformes à venir. Parvan Kavarma, auteur aussi de plusieurs essais sur les défis indiens. Un des sujets majeurs, Nicolas, de polémique actuellement en Inde, porte sur la création, le mois dernier, d'un nouveau ministère entièrement dédié au yoga. Le ministère du yoga, qu'en pense Pavan Kavarma?
Le yoga est un don de l'Inde au monde entier. Le yoga est un sujet philosophique. Si ce ministère a été créé pour favoriser l'émergence et la diffusion du yoga, c'est une bonne chose. Dans ces situations, il est très important de ne pas stigmatiser et engendrer le communautarisme.
C'est une façon de mettre en minorité les musulmans que de créer ce ministère et de réaffirmer une forme de nationalisme religieux.
Il est trop tôt pour en juger. C'est vrai que le débat est posé en ces termes en Inde. Mais même en étant dans l'opposition au Sénat, je n'irai pas jusque-là. Une chose est sûre, nous resterons très vigilants pour éviter toute dérive communautaire. Ce ministère doit rassembler et non diviser.
Un mot de politique, le premier budget parle de limiter les déficits publics, mais on voit qu'il y a beaucoup d'argent dépensé pour la création de nouveaux aéroports, de la création de smart cities, d'un nouveau train à grande vitesse. Qu'avez-vous pensé de ce budget ?
Tout budget est contesté. Il y a les bons aspects et ce qui nécessite des amendements de l'opposition. Ce que nous lui reprochons est de préserver les intérêts des classes supérieures et des élites de New Delhi. J'ai voté contre. J'estimais que ce budget ne portait pas assez d'attention aux minorités, à la femme, aux questions de l'éducation et de l'agriculture, de la santé, et qu'il aggraverait les problèmes d'inégalité sociale. Comprenez bien, nous ne sommes pas contre les smart cities et les TGV. On ne s'oppose pas aux couloirs industriels. Nous soulignons qu'ils ne sont pas moteurs pour relancer la croissance et qu'il faut des mesures fortes pour venir en aide aux laissés-pour-compte de la société indienne. Dans un pays comme l'Inde, le progrès est indissociable de la justice sociale.
Dans vos livres, vous parlez beaucoup de la classe moyenne qui s'est enrichie. Est-ce que cette classe moyenne joue aujourd'hui un rôle primordial dans l'Inde d'aujourd'hui ?
La classe moyenne s'est élargie. Elle gagne en proportion dans la population indienne. Elle est plus visible aussi parce qu'elle s'exprime via les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. On la retrouve aussi dans la création des start-up. Aujourd'hui, cette classe moyenne a une voix qui porte. Elle est écoutée des partis politiques, relayée par la presse. Elle est bien plus représentative du pays que le stéréotype du système des castes. Elle se prononce pour le changement et veut relancer la croissance. Elle est aujourd'hui un élément unificateur national dans un système fédéral. Mais dans sa recherche d'une société meilleure, elle pêche par individualisme et oublie l'intérêt général. Elle ne pense pas aux plus défavorisés et n'a aucune sensibilité sociale.
Le pacte social, on en est donc très loin. Le sénateur de l'opposition, Pavan Kavarma, auteur par ailleurs d'un premier roman, Les falaises de Vangsisina, il se lance dans la fiction. Un subtil récit, un dialogue entre un bouddhiste et un hindouiste sur le fil de la vie. Un dialogue imaginé au Bhoutan, le protagoniste du roman voit sa femme le quitter pour son associé, meilleur ami, et apprend le même jour qu'il souffre d'un cancer en phase terminale. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à vivre pleinement. Un message adressé à la société indienne, engagée dans une course au profit et qui fait en général du halo spirituel une vitrine commerciale, Nicolas.
Oui, Joub, je crois bien reconnaître une version indienne de Light My Fire des Doors. Il est 18h50. Merci Eric Valmire.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et la fabrique du Nouveau Monde, Dominique André, ce soir sur le Forum international des jeunes des quartiers populaires du monde, rencontre avec l'une des organisatrices de l'événement.
Oui, ce soir, je vous propose de rencontrer Amatiraman Oumi. Elle a 23 ans. C'est une jeune femme qui a beaucoup de choses à dire et qui voudrait faire entendre sa voix. Elle fait donc partie de l'équipe d'organisation du Forum international des jeunes des quartiers populaires qui est organisé depuis 2006 et qui rassemble des jeunes qui sont issus de trois continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud et aussi l'Europe. Alors ils discutent de beaucoup de sujets, la gouvernance, politique, la construction de nouvelles relations entre les hommes et les femmes, car les jeunes ont bien compris qu'il y avait un problème d'intégration des femmes dans la société. Il est question aussi de migration, de gestion des déchets dans les quartiers pauvres, avec notamment l'instauration d'un dialogue entre les chiffonniers sur les montagnes d'ordures et les autorités locales. On parle aussi d'innovation technologique. Tous ces jeunes ont une perception très réaliste des enjeux de société dans ce 21e siècle. Les printemps arabes l'ont bien prouvé. Rencontre donc avec une jeune femme qui a beaucoup de choses à dire, Amatirahman Oumi. Elle était à Paris pour présenter son projet.
Ce forum-là met en place des espaces publics libres pour que les jeunes s'expriment et se revendiquent et se questionnent concernant des sujets, concernant notre territoire, concernant nous-mêmes les jeunes, parce que il y a une énergie, mais cette énergie, elle est vraiment perdue. Parce que tu ne trouves pas des espaces où tu peux sortir ton énergie. Pour exprimer, tu es toujours bloqué. Pour être innovateur aussi, tu es toujours bloqué. Donc, nous, les jeunes des quartiers populaires, vraiment, on a une énergie, on a un savoir-faire, un savoir-être. Donc, on a vraiment besoin de les montrer à tout le monde. Au moment du forum, on a constaté la participation beaucoup des jeunes des quartiers qui venaient au jour de forum pour participer, pour parler librement, sans compte tout ce qui se passe ailleurs, mais de parler et partager. Et surtout les filles. Les filles, vraiment, ils viennent, ils parlent et ils participent, ils discutent. Et ils disent ce problème, ils disent ces réflexions et ils participent avec nous grâce à les méthodologies. Et aussi, ils servent beaucoup pour les autres associations qui viennent pour avoir les méthodologies pour la utiliser après. Et même de créer des partenariats pour créer un échange, pour créer une sorte de projet entre les associations et les réseaux. Aussi, ça sert beaucoup parce qu'on a besoin d'échanger.
Et la prochaine édition de ce forum international est prévue l'an prochain à Salé, au Maroc, où les 15-24 ans représentent un cinquième de la population.
Merci Dominique André. À suivre l'édito.
Alors, l'Europe se suicide tranquillement. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? Au revoir, comme dirait Giscard. Ce sera ce soir.
Bonsoir Arnaud Leparmentier.
Bonsoir.
Monsieur le directeur adjoint de la rédaction du quotidien Le Monde, vous nous dites ce soir qu'il faut en finir avec l'orthodoxie. On parle économie là ?
Mais non, je vous rassure, il ne s'agit certainement pas de contester l'orthodoxie économique d'Angela Merkel qui fait la richesse des Allemands et notre bonheur. Non, nous avons envie de chercher querelle à l'orthodoxie religieuse dans une Europe coupée en deux depuis le schisme de 1054 entre Rome et Constantinople. Alors, j'ai regardé la carte des religions sur le vieux continent, c'est saisissant. Si notre monde catholico-protestant semble ancré dans la modernité, l'orthodoxie ressemble furieusement à la carte de nos problèmes. Partons de Moscou en Russie, passons par l'Ukraine, traversons les Balkans, finissons en Grèce. J'ose un triple raccourci. La Russie de Poutine menace la paix, alors que l'Europe a pour vocation de rendre la guerre matériellement impossible. La Roumanie et la Bulgarie, minées par la corruption, incapables de gérer et d'intégrer leur Rome, menacent la liberté de circulation et Schengen. Enfin, les mensonges et les fraudes grecques ont failli tuer l'euro. Paix, Schengen, euro menacé par les popes orthodoxes, voilà des boucs émissaires bien commodes.
Alors, merci Arnaud Leparmentier, à ce stade de la chronique, on n'avait pas besoin de ça.
Merci. Soyons un peu fins, l'affaire est un peu plus complexe.
Bon, heureusement.
L'Union européenne est une construction occidentale, avant tout franco-allemande, scellée entre des États laïcisés et entrée plus tôt dans la modernité. Mais après la chute du mur de Berlin, en 89, il a fallu réaliser une double union du continent, celle de l'Union européenne et otanienne avec l'Europe communiste libérée des soviétiques et celle plus culturelle de l'Europe catholico-protestante à l'orthodoxie. Alors la première union, c'était un succès malgré les difficultés. L'Union européenne et ses valeurs s'étendent au fil de l'élargissement comme les conquêtes napoléoniennes propageaient le code civil. Mais plus on s'éloigne du centre, plus la modernisation prend du temps. Chacun le sait, la Grèce a entré en 1981, la Roumanie et la Bulgarie, qui ont adhéré en 2007, n'étaient pas prêts. C'était de notre faute, à cause de Giscard, qui ne voulait pas faire attendre Platon en Europe, à cause de Jacques Chirac, qui voulait défendre la francophonie et compenser l'Allemagne, qui avait étendu son hinterland en Europe. Mais enfin, consolons-nous, l'appartenance de ces pays à l'Union et à l'Europe les a empêchés de faire la guerre dans les Balkans et les protège de l'agression russe. Alors, la seconde ambition plus profonde, c'était de rassembler la chrétienté. C'était au fond le rêve de Jean-Paul II qui, après avoir libéré sa Pologne catholique natale, voulait aussi renouer avec l'orthodoxie, se rapprocher de Moscou, la troisième Rome après Constantinople. Mais le pape n'eut jamais l'autorisation de faire le voyage à Moscou et les positions se sont crispées en raison de la Sainte Alliance entre le Kremlin et le patriarche de Moscou, Cyril Ier, qui brandissent ensemble l'étendard des valeurs russes en péril. Le but de Poutine-Cyril n'est pas d'avoir une Europe unie, mais au contraire de présenter une union eurasienne, slave, orthodoxe, pour faire jeu égal avec la nouvelle Rome occidentale décadente, Bruxelles. Cette alliance du sabre et du goupillon russe est agressive en Ukraine. Elle veut élargir sa sphère d'influence aux marges des anciens empires, ottomans et austro-hongrois. La Serbie, objet de toutes les attentions, mais aussi la Hongrie, de l'autocrate Viktor Orban, exception catholique qui se détourne de l'Occident pour se jeter dans les bras de Poutine. Heureusement, tout finit bien grâce à l'Allemagne protestante qui est en première ligne face à ce front. Angela Merkel a maintenu la Grèce dans l'euro, après lui avoir infligé une cure d'austérité nécessaire. La chancelière qui a accusé Poutine de fouler au pied le droit international traite en direct le dossier. Quant à la Roumanie, c'est un protestant issu de la minorité allemande qui a été élu à la surprise générale président de la République par une population fatiguée de la corruption. Si les orthodoxes deviennent protestants, sans doute est-il permis d'espérer.
Je ne sais pas si je vous dis merci Arnaud Le Parmentier pour cet édito. C'est quoi la formule encore? Les propos tenus à ce micro n'engagent que ceux qui les ont prononcés. Hein. Merci en tout cas et bonsoir Hélène Jouan.